Voice of Indonesia.
Bonsoir Serge Rita, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, Serge Rita, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le président Joko Widodo se félicite les déclarations anti-canular, anti-diffamation et anti-commérage. Le président Joko Widodo s'engage à soutenir la jeune génération créative. Le gouverneur par intérim d'Aceh discute des opportunités d'investissement avec l'ambassadeur de France. Le gouverneur de Java occidentale a annoncé la conception de la mosquée de Gaza en Palestine. Selon Mohaimin, la fraternité est capitale du maintien de l'unité. La ville de Bau Bau, lors du 6e festival du Palais du Peuple Autochtone de l'ASEAN. Denpasar propose la tradition de Ngaro, la brochette de Renteng, deux danses devenues patrimoine culturel. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a salué la déclaration anti-canular, anti-diffamation et anti-commérage menée par Muslimat Nahdlatul Ulama au 73e anniversaire de la naissance de Muslimat Nahdlatul Ulama qui a eu lieu dimanche au stade de Bung Karno. Selon le président, cette déclaration est l'effort de résistance de la communauté contre la propagation de fausses nouvelles, notamment celles qui circulent dans la communauté par les médias sociaux.
Ini bagus sekali kalau semua elemen, semua ormas.
C'est bien si tous les Allemands, toutes les organisations communautaires, tous les groupes de la région, tous déclarent anti-canular. Je pense que c'est la lutte contre les canulars sur les médias sociaux. C'est le mouvement communautaire, un très bon mouvement pour notre pays. Madame Khofifah Indar Parawansa, la présidente de Muslimat Nahdlatul Ulama, a déclaré que la déclaration anti-canular, anti-diffamation et anti-commérage visait à lutter contre la propagation de fausses nouvelles par l'application de sanctions en vertu de la loi sur l'information de transactions électroniques. Cette déclaration vise également à encourager la création de sanctions sociales et spirituelles pour les personnes qui participent à la diffusion des calomnies et des commérages. En outre, la déclaration mentionne également les engagements de Muslimat Nahdlatul Ulama à s'habituer à filtrer avant de diffuser les informations reçues. Muslimat Nahdlatul Ulama a également promis de penser positivement au renforcement de la fraternité et l'unité nationale. Le gouvernement de Joko Widodo, via le ministère des Entreprises d'État, continue de s'engager à aider la jeune génération indonésienne à pouvoir travailler et à produire quelque chose de positif. En tant que soutien concret au gouvernement de Joko Widodo, le ministère des Entreprises d'État a organisé l'événement de Festival Islamique de Next Gen qui s'est déroulé à l'Université Telkom à Bandung, Java Occidental, dimanche. La ministre indonésienne des Entreprises d'État, Madame Rini Sumarno, comme rapporté par Antara, a déclaré à Jakarta que cet événement, qui a réuni des milliers de jeunes musulmans millénaires, qui est synergie avec les entreprises d'État pour encourager des entreprises d'État millénaires créatifs, novatrices et assidues. Le ministre a expliqué que cette activité était l'événement qui met en valeur des talents des générations musulmanes millénaires est regroupé en trois catégories de concurrents. Le hijab muda, à savoir les femmes musulmanes talentueuses et inspirantes, nada islam, à savoir les musiciens religieux islamiques, et santri entreprise, santri à l'esprit d'entrepreneuriat. Le gouverneur par intérim d'Aceh, Nova Iriansyah, a discuté de diverses opportunités d'investissement avec l'ambassadeur de France en Indonésie, M. Jean-Charles Bertone. Et l'attaché de défense, Gail Lacroix, à Aceh, Nova Iriansyah a déclaré samedi à RRI que le gouvernement d'Aceh offrait d'énormes possibilités aux investisseurs de l'intérieur et de l'étranger. Pour cela, il espère que l'ambassadeur de France invite les investisseurs français à coopérer et à investir à Aceh. Selon lui, Aceh possède divers potentiels qui peuvent être développés, comme par exemple dans le secteur de l'énergie. Cette région a le potentiel de développer éolienne, car elle dispose d'une source de vent très appropriée le long de la côte d'Aceh. En outre, le potentiel touristique est également très bon à Aceh, y compris dans la région de Sabang. En fait, le gouvernement d'Aceh a fourni des terrains aux investisseurs potentiels qui souhaitent investir à Sabang. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le gouverneur de Java Occidental, M. Ridwan Kamil, qui est également architecte, a annoncé la conception de la mosquée de Gaza en Palestine au public. La conception de son travail a ensuite été confiée à l'organisation Aman Palestine pour socialiser ensuite la collecte de fonds. C'est ce qu'a déclaré Ridwan Kamil à la mosquée Salman de l'Institut de Technologie de Bandung à Bandung, Java Occidental, dimanche. Comme cité par Antara, le gouverneur Ridwan Kamil a déclaré que la conception des mosquées pour les Palestiniens avait été choisie en conformité avec la demande des habitants. Parmi les quatre modèles présentés comme option, les habitants de Gaza ont choisi le modèle en forme de dôme. Concernant le budget, M. Ridwan Kamil estime que cette mosquée nécessite des fonds d'environ 20 milliards de rupiah. Pour collecter les fonds, Ridwan Kamil a invité tous les Indonésiens, notamment les habitants de Java Occidental, à contribuer en mettant de côté des fonds pour la construction de la mosquée à deux étages. Cependant, Miftahuddin Kamil, directeur de l'organisation Aman Palestine, a affirmé que la mosquée sera construite sur le terrain de l'ancienne mosquée Sheikh Al-Jin, qui est complètement détruite par la guerre. Le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, M. Mohaimin Iskandar, a estimé que la fraternité de ses compatriotes était la capitale de maintien de piliers de l'unité de la nation. Il a déclaré dimanche à Jakarta que sa gratitude pour le peuple indonésien, qui était actuellement en sécurité pacifique et confortable, parce que toutes les actions sont unies pour soutenir un gouvernement stable. Selon lui, il est nécessaire de maintenir la sécurité pour que la communauté puisse pratiquer le culte calmement et confortablement. Selon lui, la condition de l'Indonésie sûre et stable doit être reconnaissante car les conditions dans plusieurs pays musulmans sont très différentes. Ils subissent des menaces à la bombe lorsqu'ils vont adorer. Il a également estimé qu'avec la forte fraternité des musulmans, ou Ukhuwah Islamiyah, rendait le peuple de ne pas être facilement divisé. La ville de Baobao, dans le sud-est de Sulawesi, sera l'hôte du 6e festival des palais du peuple autochtone de l'ASEAN 2019. Il est le résultat de délibérations des peuples autochtones de l'ASEAN dans la région de Sumenep, la province de Java Est, l'année dernière. La mise en œuvre de cette activité aura lieu du 10 au 14 juillet. Le secrétaire régional de la ville de Baobao, M. Roni Muhtar, a dit que, lié à la préparation de l'événement, il a enregistré la disponibilité de l'hôtel pour les invités. Il a déclaré récemment à Radio République Indonésia à Baobao qu'il était optimiste qu'il pourrait organiser l'événement au niveau de l'ASEAN. parce que le gouvernement de la ville de Bau-Bau a organisé avec succès plusieurs événements similaires au niveau régional, national et international, tels que l'organisation du Forum Keraton Nusantara en 2012. Le Bureau de la Culture de la ville de Denpasar Bali propose la détermination de la tradition Ngaru à Banjar Madura, Intaran Sanur, la danse de Janger Kedaton, Sumerta et Pegok, la danse de Legong Binoh et les brochettes de Renteng en tant que patrimoine culturel immatériel indonésien 2019. Yudu Wasudewa, le membre de l'équipe du patrimoine culturel de la ville de Denpasar, a déclaré lundi que le gouvernement municipal a proposé la détermination de la tradition de Ngaru en tant que patrimoine culturel dans la catégorie des coutumes, des rites et des célébrations, la danse de Janger Kedaton Sumerta, Pegok et la danse de Legong Binoh en tant que patrimoine culturel des arts de la scène, ainsi que les brochettes de Renteng en tant que patrimoine culturel immatériel sous forme de compétences culinaires. Selon M. Yudu Wasudewa, le Bureau culturel de la ville de Denpasar fait la collecte de données, la protection de la culture régionale et propose certaines de ses traditions et de ses arts traditionnels en tant que patrimoine culturel immatériel de l'Indonésie. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Sagesse de choisir des candidats aux législatives ». Le 17 avril 2019, le peuple indonésien votera pour l'élection de candidats au poste de président et vice-président et de membre du Conseil du peuple ou DPR. Les expériences des deux candidats à la présidence et à la vice-présidence sont certainement claires, mais pour les futurs membres du Conseil, de nombreux électeurs ne le connaissent pas. Peut-être il y a plusieurs candidats législatifs qui violent les règlements électoraux. En tant que candidat à des membres de l'Assemblée consultative du peuple, ils sont de hautes institutions de l'État, ils ne devraient pas faire des choses qui violent la loi. S'ils sont élus, ils seront impliqués dans la rédaction des lois. Si avant de devenir les membres du Parlement, ils osent de violer les règles établies par le précédent Parlement, il est possible qu'ils soient plus courageux pour commettre des violations après leur élection. Lors d'une conversation avec le principal reporter de la Voix de l'Indonésie, M. Daulat Pane, l'un des commissaires de la Commission des élections générales, Firian Aziz, récemment a demandé au public d'être proactif, de chercher des informations sur les candidats au conseil d'administration qu'ils choisiront. C'est pour éviter le mauvais choix ou comme acheter un chat dans un sac. Pour cette raison, pour le peuple de l'Indonésie, doivent être des électeurs avisés et refuser la politique monétaire. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 28 janvier 1932, le Japon a attaqué la ville de Shanghai. Dans la nuit du 28 janvier 1932, un porte-avions japonais a bombardé Shanghai avec son avion. Ce bombardement est devenu l'action du premier grand porte-avions de l'Asie de l'Est. Après cela, 3000 soldats japonais sont allés attaquer la cible, telle que la gare dans le nord. La bataille se poursuivit jusqu'à ce que la Ligue des Nations adopte une résolution demandant un cessez-le-feu. Le 6 mars, les Chinois ont accepté de cesser les combats, mais les Japonais étaient toujours disposés à se battre et à rejeter le cessez-le-feu. Le 14 mars, des représentants de la Ligue des Nations sont arrivés à Shanghai et ont forcé le Japon à négocier. le 28 janvier 1949 la création de la Commission des Nations Unies pour l'Indonésie. Le rôle des Nations Unies dans la résolution du conflit entre l'Indonésie et les Pays-Bas s'est concrétisé par la création de l'Agence de la paix chargée de la médiation des différends et de la médiation dans les négociations de paix. L'organe de la paix créé par les Nations Unies pour l'Indonésie est la Commission des Trois Nations. L'Agence pour la paix a été créée en réaction des Nations Unies sur la première agression militaire hollandaise. La Commission des Trois États est toutefois réputée d'avoir échoué à réconcilier l'Indonésie et les Pays-Bas parce que les Néerlandais ont à nouveau commis une agression militaire. Le 28 janvier 1949, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution prévoyant notamment le remplacement de la Commission des Trois États par la Commission des Nations Unies pour l'Indonésie. Le résultat des travaux des Commissions des Nations Unies pour l'Indonésie comprenait un accord Romroyen entre l'Indonésie et les Pays-Bas. L'accord Romroyen a eu lieu le 14 avril 1949 à l'hôtel Des Indes à Jakarta. Le 28 janvier 1986, la navette Challenger a explosé peu après le décollage et a tué 7 personnes. La catastrophe de la navette spatiale Challenger s'est produit le mardi 28 janvier 1986 lorsque la navette spatiale a explosé 73 secondes après son lancement, provoquant la mort de 7 équipages d'astronautes. L'avion est détruit au-dessus de l'océan Atlantique au large des côtes du centre de la Floride. La désintégration de l'ensemble de l'avion a commencé après que le joint situé à droite du propulseur de fusée solide n'est pas été retiré. L'une des deux fusées d'appoint s'est inclinée et a gratté le fuselage lorsqu'une étincelle a jailli suivie de l'explosion de l'avion. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Serge Leta, c'était la chanson intitulée Saat Teduh, chantée par Monita Tahalia. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie intitulée Le programme du Centre agricole millénaire est lancé pour accroître la production agricole. Serge Leta, voici donc mon Indonésie et pour le titre Le programme du Centre agricole millénaire est lancé pour accroître la production agricole. Le ministre de l'Agriculture, Andi Amran Sulaiman, a lancé vendredi le programme du Centre agricole millénaire pour accroître la production agricole dans la résidence de Tasikmalaya, Java Occidental, vendredi. 15 000 jeunes centres originaires de plusieurs villes et résidences d'Indonésie ont assisté au lancement du premier programme agricole relatif à Centre. Amran Sulaiman, devant le Centre et un certain nombre de responsables des gouvernements locaux, ont souligné que le lancement du Centre agricole millénaire était un effort sérieux du ministère de l'Agriculture pour la régénération du secteur agricole. Le ministre Amran Sulaiman a expliqué que le programme était important car les besoins alimentaires à l'avenir seront encore plus grands parallèlement au taux de croissance démographique. Pendant ce temps, les travailleurs du secteur agricole ne sont occupés que par des agriculteurs âgés. Selon lui, les efforts pour introduire et mobiliser les centres millénaires sont un choix stratégique pour la régénération et augmenter la productivité agricole. Amran Sulaiman a estimé que la participation du centre faisait partie d'un programme plus vaste, à savoir le mouvement d'un million d'agriculteurs millénaires désigné comme programme prioritaire pour la construction du peuple indonésien en 2019. Il a dit que cette activité n'était pas simplement cérémonielle, car l'assistance et la formation étaient concrètes et supervisées par des unités de mise en œuvre technique. Dans le cadre de cette activité, le ministère de l'Agriculture a également fourni une assistance directe sous forme de semences de qualité supérieure pour le riz, le maïs et les plantes horticoles. En outre, il y avait 102 animaux élevés, 500 chèvres ou moutons, 10 000 poulets et une assistance des machines agricoles. Ce nombre continuera à augmenter tout en collectant des données sur le potentiel des internats islamiques en Indonésie. Amran Sulaiman espère que cette assistance encouragera le centre à être productif et à devenir des entrepreneurs dans l'agriculture et l'élevage. L'espoir est que les internats islamiques puissent encourager la productivité agricole et générer de nombreux jeunes entrepreneurs dans l'agriculture lors de son retour dans la société. Le directeur des légumes et des plantes médicinales du ministère de l'Agriculture, Prihasto, espère que le mouvement des paysans millénaires réduira le problème du chômage. Pour les produits horticoles, l'assistance en semences de piment est fournie sur une superficie de 40 hectares répartie dans les régions de Pangandaran, Garut, Ciamis, Banjar et Tasikmalaya. L'aide de piment est destinée au développement des affaires dans les internats islamiques. En outre, une aide sous forme de 2500 graines de mangoustan a été fournie pour Pangandaran et Tasikmalaya. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada mohon tinggal sejenak lupakanlah waktu temani air mataku teteskan lara merajut asa menjali mimpi hendakkan sepi-sepi cintakan membawamu kembali di sini rindu membasuh perih
dusta mengalir. Jujurkanlah hati, kenangan batin jiwaku. Kenangkan cinta seperti dulu saat bersama. Tak ada keraguan. Meski mencoba melabuhkan rasa yang ada, mohon tinggal sejenak. Lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskanlah.
Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée « Cintakan membawamu kembali » chantée par Mike. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir, chers auditeurs, c'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à visiter le centre de l'industrie de cuir à Java Oriental. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Sidoarjo est l'une des résidences de la province de Java Oriental. Dans cette résidence, il existe un centre de l'industrie de cuir où la majorité des habitants sont des artisans de cuir, à savoir le district de Tanggulangin. Depuis les années 70, Tanggulangin est bien connu pour le centre des sacs et des valises. Cette région peut devenir une alternative au tourisme d'achat après la visite de Malang, grâce à l'emplacement qui est situé entre les rues reliant Surabaya-Malang et Surabaya-Mojokerto, les touristes s'y arrêtent après avoir pris des vacances. Le développement du centre d'artisanat de sacs et des portefeuilles de Tanggulangin a été lancé dans les années 60, alors que la plupart des gens de Kedensari devenaient des travailleurs à temps partiel de l'entreprise de valises à Surabaya. Ainsi, Certaines personnes ont essayé de faire leur propre affaire en fabriquant des valises en carton épais comme matière première recouverte de cuir de vache. Et puis, dans les années 70, de nombreux entrepreneurs de valises de Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung et Jakarta ont commandé les valises à Tanggulangin. Actuellement, de nombreux produits vendus ne sont pas des produits originaux de Tanggulangin, sinon des produits de sac chinois qui entrent et deviennent un obstacle pour les artisans originaux de Tanggulangin. Mais certains artisans survivent toujours et vendent les sacs et les valises de leurs propres produits, même s'il existe des artisans qui fabriquent des produits pour sacs à l'étranger. Pour éviter les produits contrefaits, vous pouvez acheter au showroom original de Tanggulangin. Habituellement, ils utilisent toujours le nom propriétaire comme nom du magasin. Vous pouvez aussi acheter directement au showroom Intaco, à savoir la coopérative de l'industrie des sacs et des valises qui devient le centre de l'industrie des sacs et des valises de Tanggulangin. Grâce à la qualité de leurs produits, le marché d'Intaco n'est pas seulement le marché intérieur, mais également celui à l'étranger, notamment en Italie, aux États-Unis et en Arabie Saoudite. Chers auditeurs, c'était le magazine Cultura pour ce soir avec comme titre « Le centre de l'industrie de cuir dans la province de Java-Est ». Merci de votre attention. À demain.
Voice of Indonesia.
Seperti ini pada akhirnya, semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Hitam putih berlalu, janji kita menunggu, tapi kita tak mampu. 1001 cara kita lewati untuk dapatkan semua jawaban ini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Tak bisa
Cerita setelah chanson de Siana Saraswati intitulée Tetap dalam Jiwa. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Pour avoir suivant, voici donc apprendre l'indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Warung Meiji et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Boleh saya » ou en langue française « Puis-je ?» Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Boleh saya » ou en langue française « Puis-je ?» Cette conversation est entre Tony et l'hôtesse de l'air dans la cabine de l'avion. Tony veut boire du thé, anciennement l'hôtesse de l'air est passée. Tony a appelé l'hôtesse de l'air.
« Nona, maaf. »«
Iya, pak. »«
Boleh saya minta teh ?»«
Baik, pak. Akan saya ambilkan. » »« Ini tehnya, pak. »
Terima kasih banyak.
Sama-sama.
Serviteur, après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir boleh saya, boleh saya, en français, puis-je. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Maaf, maaf. En français, excusez-moi. Boleh saya minta teh? Boleh saya minta teh? En français, puis-je boire du thé? Baik, baik. En français, d'accord. Akan saya ambilkan. Akan saya ambilkan. En français, je vais le chercher. Ini tehnya? Ini tehnya? En français, c'est du thé. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. En français, merci beaucoup. Sama-sama. Sama-sama. En français, de rien. Pak ou bapak. Pak ou bapak. En français, monsieur. Kopi. Kopi. En français, café. Kertas. Kertas, en français, papier. Question. Boleh saya minta teh? Boleh saya minta teh? En français, puis-je boire du thé? Boleh saya minta kopi? Boleh saya minta kopi? En français, puis-je boire du café? Dans le contexte de la conversation entre Tony et l'hôtesse de l'air, l'hôtesse de l'air a donné une réponse « baik ».« Baik » en français « d'accord ». Cette réponse est généralement dite par l'hôtesse de l'air, les serviteurs du restaurant et des subordonnés au supérieur. Cependant, si votre ami vous demande quelque chose, par exemple demander du papier, « Boleh saya meminta kertas ?» Boleh saya meminta kertas? En français, puis-je voir du papier? Vous pouvez répondre, ya boleh. Ya boleh. En français, oui, bien sûr. Ou seulement dire, boleh. Boleh. En français, bien sûr. En conversation, vous entendez le mot pas, qui est l'abréviation du mot bapak. Le mot « bapa » est un appel à des hommes âgés, respectés ou souvent utilisés dans des situations formelles et des contextes d'affaires. Exemple, « baik pak »,« baik pak » en français, « d'accord monsieur ». »« Terima kasih pak », »,« terima kasih pak » en français, « merci monsieur ». »« Silakan pak », »,« silakan pak » en français, « s'il vous plaît monsieur ». Si elle est précédée de mots, vous devez utiliser le mot bapa. Bapa, en français, monsieur. Par exemple, Apakah Bapak mau minum jus? Apakah Bapak mau minum jus en français? Voulez-vous boire du jus, monsieur? Dari mana asal Bapak? Dari mana asal Bapak? En français, d'où venez-vous, monsieur? Secrétaire, avant de terminer à prendre l'indonésie en aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Nona, maaf.
Iya, Pak.
Boleh saya minta teh?
Baik, Pak. Akan saya ambilkan. Ini tehnya, Pak.
Terima kasih banyak.
Sama-sama.
Chers amis, c'est la rubrique Apprendre l'indonésien en pour que ce soit, que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Untuk jatuh cinta pada
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Bawadaku, chantée par Tompi. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs de Voice of Indonesia. Aujourd'hui, on va écouter la chanson intitulée Yening Tawang Ono Lintang, chantée par Waljina. Elle a été créée en mai 1964 par le regretté Anjar Ani. Le premier chanteur de Yening Tawang Ono Lintang n'était pas Waljina, mais Madame Sarbini, qui était la sœur de Waljina, qui était également chanteuse. À cette époque, la chanson était considérée comme ayant violé les règles du type de style de chanson. Un tel style distinctif de Chengkok est soudainement perturbé par une nouvelle version du style de Yening Tawang Ono Lintang. On pense également que cette chanson était comme une prière répondue, car par cette chanson, la prière d'Anjar Ani, par laquelle il a demandé d'avoir une fille, a été acceptée par le Créateur Dieu. Chers auditeurs, écoutons ensuite la chanson dont le titre Yening Tawang Ono Lintang, chantée par Waljina.
Aku
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.